Alors, sans plus tarder, le titre de mon message, de la prédication, Heureux ceux qui souffrent pour Christ. Alors, tout simplement, je vais diviser mon message en trois points. Le premier, comprendre la souffrance chrétienne, les versets 12 à 15. Pierre exhorte les croyants à ne pas être surpris par l'épreuve comme si elle était une chose étrangère à la vie chrétienne. Deuxième point, distinguer la souffrance chrétienne de la souffrance coupable, versets 15 à 17. Nous verrons qu'il faut distinguer deux types de souffrance. Toute souffrance n'est pas nécessairement honorable pour ou devant Dieu. Et le troisième point, le jugement de Dieu, versets 18 et 19. Pierre rappelle que Dieu est un Dieu juste et qu'il juge avec justice. Sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous terminerons le chapitre 4 aujourd'hui. Alors, versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien? Amen. On peut s'asseoir? Au travers de toutes les choses que Pierre nous dit dans ce passage de sa lettre inspirée par Dieu, la première chose qu'il cherche à nous communiquer, c'est de nous enseigner sur la souffrance chrétienne. On n'est pas ceux plutôt qui croyons que lorsque nous sommes venus au Christ, nés de nouveau, que notre vie a été transformée par sa puissance glorieuse, nous sommes maintenant exempts de toute souffrance. Que notre vie sera, à partir de maintenant, sans aucune difficulté. Les phrases du genre « Viens à Jésus et ta vie ira mieux », comme si l'Évangile était une marchandise pour ton bonheur personnel, pour régler des problèmes de vie, pour t'améliorer en tant que personne. Mais ces conceptions-là de l'Évangile ont dilué, pour ne pas dire changé, l'essence du message de Christ. En intégrant toutes sortes de philosophies mondaines qu'on retrouve chez des coachs de vie partout sur Internet, une vision qui se limite à la sphère terrestre et qui met l'homme au centre de tous ces types de sermons-là, les chrétiens qui boivent ce genre de prédication sont venus à croire que la souffrance est anormale dans la vie chrétienne. Il est vrai que lorsqu'une personne se convertit, plusieurs choses peuvent changer pour le mieux dans sa vie. La personne peut avoir arrêté la consommation de drogue, d'alcool, ce qui a amélioré sa santé en général. Que ce chrétien-là s'est fait de nouveaux amis qui ne profitent plus de lui, par exemple, mais qui l'aiment pour vrai, hein, etc. On pourrait faire une liste très longue. de tous les bienfaits terrestres que peuvent amener la conversion à Christ. Mais le but d'annoncer l'Évangile, ce n'est pas d'attirer les gens à une vie meilleure, quoique forcément, si la personne avait une vie débridée, comme je le disais, elle aura probablement une meilleure vie par la suite. Mais le but de la prédication de l'Évangile, c'est de vouloir que celui qui nous écoute rencontre son Dieu, qu'il soit rencontré par le Seigneur de gloire, qu'il passe de la mort à la vie spirituellement, d'une personne sur laquelle le jugement de Dieu était sur lui, en chemin vers la perdition éternelle, dans une mer de feu qui ne s'éteint point, sans espoir, perdu, loin de Dieu, à un enfant de lumière, délivré de la colère de Dieu par la mort du Christ en croix. Celui qui a pris notre condamnation, qui l'a porté au bois, qui a été jugé de Dieu afin qu'on ne le soit pas, qui a subi la séparation éternelle d'avec Dieu, afin qu'on soit pour toujours, dès maintenant, dans sa présence et pour toute l'éternité. Qui a vécu une vie parfaite afin de nous l'imputer, de mettre à notre compte, afin que nous soyons déclarés justes devant lui. C'est à ce genre d'évangile-là qu'on veut appeler tous les êtres humains de la terre. Et c'est cet évangile, le véritable évangile, qui a un prix à payer. Devant Dieu, tout est beau, hein? Nous sommes réconciliés avec lui par le sang de la croix, comme je le disais bien. C'est parfois devant les hommes, dans la cité des hommes, la cité terrestre, pour citer Augustin, que ce n'est pas toujours de tout repos. Et c'est une tension très similaire à ce que Pierre dit à ses lecteurs, justement, dans la lettre. Pour rappeler brièvement le contexte, Pierre s'adresse à des croyants dispersés d'Asie mineure. Ils vivaient dans un environnement qui était largement païen, où la vie sociale, religieuse et culturelle était profondément marquée par des valeurs qui étaient étrangères à l'Évangile. Et que la plupart des croyants étaient probablement issus eux-mêmes du paganisme. Avant leur conversion, ils étaient partie prenante de cette cité-là, de ses pratiques, de ses fêtes, de ses cultes, de sa manière de vie. Avant leur conversion, ils étaient parfaitement chez eux, dans ce genre d'environnement-là. Mais leur conversion a changé complètement leur position dans le monde qu'ils étaient. Et ce changement-là a apporté une rupture avec leur vie d'avant. Et surtout une rupture avec certaines relations qu'ils avaient avec ceux de leurs anciennes communautés. Le commentateur Peter Davids parle d'une isolation culturelle ou même d'une hostilité au niveau personnel, au niveau de leurs relations. Cette hostilité-là, vient du fait qu'ils n'appartiennent plus au système d'avant, mais qu'ils appartiennent à Christ dans un monde qui ne partage plus leur allégeance et leurs valeurs. Leur manière de vivre est devenue étrangère à celui de leur milieu. Leur refus de participer aux mêmes excès, aux mêmes pratiques idolâtres, aux mêmes désirs qui sont désordonnés, crée de l'incompréhension, du mépris et, comme David le disait, de l'hostilité envers eux. Alors, c'est précisément dans ce contexte-là qu'il faut entendre l'exhortation de Pierre. Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Cette exhortation de Pierre-là touche d'abord la manière dont les croyants interprètent ce qui leur arrive. Hein? Et là, ce qui leur arrive, c'est des tribulations. Au verset 12, Pierre joue sur le champ lexical de l'étrangeté. D'abord, dans l'expression « ne soyez pas surpris », il utilise le verbe « genizo », ce verbe qui signifie « trouver étrange ». Être surpris devant quelque chose d'inhabituel. Et plus loin, au verset 12, à la fin du verset 12, verset 12b, Pierre ajoute « comme d'une chose étrange qui vous arrive ». Là, il emploie l'adjectif plutôt, et non pas le verbe, « xénou ». Alors, sa petite pirouette lexicale, je trouvais ça intéressant, est encore plus claire ou prend encore plus de sens lorsqu'on lit le début du quatrième chapitre et au verset 4, dans le même chapitre, où il écrit « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, ils vous calomnient. » Si les païens vous trouvent étrange à cause de votre nouvelle manière de vivre, vous ne trouvez pas étrange l'hostilité du monde étranger à la vie de Dieu. Hein, c'est un peu ce qui résume et je vais le répéter. Si les païens vous trouvent étrange à cause de votre nouvelle manière de vivre, vous ne trouvez pas étrange l'hostilité du monde étranger à la vie de Dieu. Peut-être certains d'entre vous ne sont pas encore convaincus de cette idée de l'étrangeté, qu'elle se retrouve ailleurs. Hein. Je fais un peu de la rhétorique, je sais que vous êtes convaincus. Mais suivez-moi avec moi en 1 Pierre 1, verset 1, où Pierre dit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et en 1 Pierre 2, 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et nous savons bien que le chrétien vit dans ce monde-là, mais nous y vivons comme des gens dont l'identité profonde est étranger à ce monde, notre patrie, notre origine, notre destination, c'est la cité céleste. Le croyant habite encore dans la ville, nous habitons encore à Montréal ou dans sa périphérie. Il travaille encore dans la société pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il vit encore au milieu de sa famille, de ses voisins, de ses collègues qui ne sont pas chrétiens. Mais son appartenance fondamentale a changé complètement. Il appartient à Christ. Il est citoyen du royaume de Dieu. Il vit encore dans le monde, mais il ne partage plus les mêmes désirs, les mêmes valeurs, les mêmes cultes, les mêmes espérances, les mêmes aspirations que ce monde partage. Vous êtes des étrangers dans ce monde. Ne soyez donc pas surpris si votre vie étrangère au monde provoque une réaction étrangère à vos attentes. Je vais laisser le mot étranger de côté. Le monde nous trouve étranges. Après cette citation-là, les croyants sont étrangers dans le monde trouve nos vies étranges, mais nous, on ne doit pas trouver étrange leur hostilité envers nous. Et c'est ce que Pierre veut faire sentir à ses lecteurs dans le monde antique, l'étranger, pour un peu plus de contexte. C'est plus qu'une personne qui ne venait pas du même endroit que nous. Hein. C'était souvent, pas toujours, mais quelqu'un qu'on ne comprenait pas immédiatement. Il ne parlait peut-être pas notre langue, ou probablement pas notre langue. Il ne partageait pas nos coutumes. Il n'avait pas nécessairement les mêmes pratiques religieuses, les mêmes rites, les mêmes fêtes, les mêmes manières de vivre. L'étranger pouvait donc facilement devenir celui qui dérange, celui qui surprend, hein, celui qui inquiète, simplement parce qu'il ne rentre pas dans les catégories habituelles des gens qui le côtoyaient. Alors, quand on ne comprend pas quelqu'un, on commence souvent par le trouver étrange. Hein? Et lorsque cette étrangeté-là demeure inexpliquée, elle peut rapidement devenir, par exemple, du soupçon, rejet, de la calomnie, de l'hostilité. C'est exactement ce qui est arrivé, et je mentionne en partie, aux premiers chrétiens, par exemple, dans l'Empire romain. Et je dis en partie parce que l'hostilité contre les chrétiens ne se réduit pas à ce seul aspect-là. Leur manière de vivre paraissait incompréhensible à leurs contemporains. Ils vivaient encore au milieu de la cité, mais leur manière de vivre témoignait qu'ils appartenaient à une autre cité. Et cette étrangeté-là chrétienne a parfois donné naissance aux accusations les plus absurdes qu'on connaît assez généralement aujourd'hui, parce que les chrétiens parlaient de manger le corps du Christ, de boire son sang. Certains les ont accusés de cannibalisme. Hein? Ils ne comprenaient pas le langage de la scène comme nous, on le comprend. Ils entendaient les mots chrétiens avec des oreilles païennes, sans comprendre vraiment le sens spirituel, le sens communautaire et liturgique de ce repas-là. Alors, comme j'ai dit, c'est en partie l'hostilité qui était dirigée vers les chrétiens, mais ce n'était pas seulement à cause d'une étrangeté, à cause d'une incompréhension de la part des païens. L'étrangeté, pour les contemporains de Pierre, est devenue une calomnie. Une pratique, la pratique qui était sainte, par exemple, des chrétiens, elle était incomprise, déformée, justement, en accusations qui pouvaient être complètement monstrueuses, de dire que les chrétiens sont des cannibales. Alors, cette nuance-là, justement, il faut dire que une des raisons aussi pourquoi ils étaient calomniés, c'est parce qu'ils refusaient d'adorer les dieux de la cité et leur fidélité exclusive à Jésus-Christ, hein, les rendait hostiles à la vie de la cité parce qu'ils ne participaient plus au culte comme les autres citoyens. L'équilibre de la société semblait s'effondrer avec ce genre de citoyens qui étaient les chrétiens. Et encore, nous, aujourd'hui, nous sommes considérés comme ceux qui sont étranges parce que nous avons une vie qui est réellement attachée à Christ. Alors, pas nécessairement parce que nous cherchons à être bizarres de par nous-mêmes, hein, ou provocateurs, ou différents, pour le plaisir de l'être, mais parce que l'Évangile transforme réellement nos désirs et notre manière de vivre. Lorsque nous refusons certains compromis avec le monde, lorsque nous ne rions plus aux mêmes choses, hein, lorsque nous ne poursuivons plus les mêmes ambitions, lorsque nous ne donnons plus notre temps, notre argent à ce que le monde le donne, bien, il ne faut pas être surpris qu'ils ne nous comprennent pas. Et il ne faut pas être surpris que notre fidélité à Christ dérange. Et si elle est mal interprétée, si elle provoque des remarques de la distance de nos contemporains, ben, parfois du mépris, ben, il ne faut pas être surpris de la fournaise. Et quand on lit cela par rapport à la fournaise, on ne peut s'empêcher de penser à Shadrach, Meshach et Abednego. Sans dire que nécessairement Pierre voulait faire un lien direct avec l'histoire de l'Ancien Testament, on peut toutefois voir un parallèle très fort entre ces deux histoires, si on peut l'appeler comme ça. La fournaise physique dans laquelle ces trois hommes ont été jetés est précisément causée par le refus de se prosterner devant l'idole du roi, la grande statue d'or qu'il avait fait de lui-même. Et ils sont tombés sous le jugement du monde parce qu'ils n'ont pas voulu se plier, parce qu'ils n'ont pas voulu se conformer aux pratiques des gens de la société qui les entourait. C'est l'argument de Pierre que l'on retrouve à plusieurs autres endroits également dans l'Écriture. De la même manière que le Christ a souffert entre les mains des pécheurs, de la même manière le chrétien souffrira à un moment ou à un autre entre leurs mains plutôt également. L'union à Christ comprend absolument, nécessairement, une participation à son chemin. Christ a souffert comme le juste au milieu des injustes. Le croyant, uni à Christ, peut aussi, va aussi, souffrir comme un enfant de Dieu au milieu d'un monde qui ne reconnaît pas, qui ne se soumet pas à notre Dieu. Ce lien avec Christ est totalement essentiel parce que Pierre a déjà dit en 1 Pierre 2, versets 21 à 23, justement, que Christ a souffert injustement, sans commettre de péché, sans rendre l'insulte pour l'insulte et s'en remettant à celui qui juge justement. Et en 1 Pierre 3, verset 18, il rappelle encore que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. 1 Pierre 4, 1, il revient à la même idée. Christ a souffert dans la chair, point. Il dit, il n'y a pas de point après ça, corps rhétorique. Armez-vous de la même pensée. Alors, puisque Christ a souffert dans la chair, maintenant, armons-nous, nous aussi, de la même pensée. Maintenant, au verset 13, il dira que les croyants ont part aux souffrances de Christ. Il y a donc une ligne très cohérente entre, dans sa lettre, avec, au travers de sa lettre plutôt. Le chrétien suit un Christ qui a été rejeté, humilié et outragé, et avant d'être glorifié auprès de Dieu, son Père. Alors, c'est dans cette perspective-là que Pierre parle de la fournaise de souffrance à cause de leur fidélité à Jésus-Christ. La pression des autres, les outrages, l'humiliation et tout ce que les croyants subissent à cause de leur amour pour Dieu. Et cette souffrance-là est là pour les éprouver, pour nous éprouver également, pas juste les contemporains de Pierre, mais nous à Montréal aujourd'hui. Elle est en vue de l'épreuve et on devrait se poser la question, quand on lit le texte, pour nous éprouver, mais pour éprouver quoi? Et la clé de cette interprétation pour Bénétro, un autre commentateur, se trouve tout simplement au début de sa lettre. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors, c'est le lien le plus naturel qu'on peut faire avec cette épreuve, hein, c'est l'épreuve de la foi. Ne soyons pas étonnés des persécutions, des épreuves qui viennent éprouver notre foi, comme si c'était quelque chose d'étranger à la vie chrétienne. Ce ne l'est pas du tout, parce que, en plus d'être normal, ce sont également des preuves ou des épreuves que Dieu lui-même place sur nous, place sur notre chemin pour éprouver notre foi, pour la purifier, pour la rendre visible et surtout aussi hein, pour la rendre visible aux gens autour de nous. Nous pouvons nous réjouir que Dieu nous donne ces épreuves pour que nous ressemblions à son Fils. C'est pas étrange, c'est normal. Le Christ a souffert et nous allons souffrir, être méprisés comme lui l'a été. Et c'est de cette manière-là, ou plutôt une des manières, que nous savons que nous lui appartenons. En Actes 5, verset 41, on lit « Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. » Triste, non. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Nous participons aux souffrances de Christ qui renvoient à l'idée d'une communion, d'une association à notre Sauveur. L'œuvre rédemptrice demeure entièrement accomplie par Christ seul. Les souffrances du croyant manifestent seulement son union à Christ et son appartenance à celui que le monde a rejeté. On ne souffre pas pour gagner notre salut. Et c'est pour cela que Pierre peut parler de joie, parce que la souffrance peut au premier abord être triste et souffrante, mais nous nous rappelons que nous souffrons pour son nom, nous suivons le même chemin que notre maître et nous pouvons nous aussi être joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et ses souffrances sont joyeuses, ses souffrances pour lui sont un sceau sur nos vies que maintenant nous lui appartenons. Et c'est super d'être heureux dans le moment présent parce que nous lui appartenons, parce que nous savons du moins que nous lui appartenons. Mais c'est encore plus glorieux parce que cette joie commence maintenant, mais surtout parce que elle se termine avec une promesse eschatologique. Elle se termine au-delà du maintenant, au-delà du ici. Nous qui sommes associés au Christ dans ses souffrances sur la terre, nous sommes associés à lui dans la joie, dans les cieux, avec Christ et pour l'éternité. Nous qui ne méritions pas un si grand salut, nous qui blasphémions son nom, nous étions ennemis de lui. Le Christ nous a fait grâce lorsque nous méritions l'enfer éternel. Nous ne méritions pas d'être unis à lui pour l'éternité, mais nous le sommes parce que nous partageons, ou après avoir accepté par la foi, et que nous allons continuer de partager ses souffrances. Comme Étienne en train de se faire lapider, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les yeux vers le ciel, les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, les cieux sont ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, le même esprit, l'Esprit de Dieu qui reposait sur Étienne lors de ses tribulations est le même qui repose sur nous lorsque nous sommes persécutés pour son nom. Bien sûr, ça ne signifie pas que chacun des croyants persécutés recevra une vision comme celle d'Étienne quand il a vu la gloire de Dieu, mais un jour, ce qui est certain, c'est comme Étienne, nous serons dans la gloire de Dieu. Et parce que le même esprit de gloire, parce que la même personne de la Trinité, en force et en puissance, qui a gardé la foi d'Étienne lorsqu'il a été haï au plus haut point par ses contemporains à cause du Christ qu'il confessait, mais ce même esprit-là nous soutiendra de la même grâce lorsque nous serons ou lorsque nous avons été dans l'épreuve pour son nom. Deuxième point, distinguer la souffrance chrétienne de la souffrance coupable. Alors, Pierre, après avoir présenté la souffrance pour Christ comme une participation aux souffrances du Seigneur, une normalité pour un peuple étranger dans ce monde, Pierre introduit une distinction qui est indispensable entre les types de souffrance. Il écrit, verset 15, « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Souffrir par identification au Christ pour ne pas vouloir plier le genou devant les idoles de ce monde, par fidélité à notre Dieu, à sa sainte loi, c'est une bonne souffrance. C'est la souffrance normale liée à la vie chrétienne dans un monde qui est ennemi de son Créateur, que nous servons et que nous aimons. Par contre, souffrir parce que tu as fait le mal d'une manière quelconque, ce n'est pas de la souffrance qui est louable. Ce que Benetro dit également dans son commentaire, « Les mauvais traitements ne constituent des occasions de joie que dans la mesure où ils sont subis directement ou indirectement pour la foi et non pour quelque autre motif moins avouable. » Alors, cette phrase est clé et le centre, à mon avis, de l'explication de cette deuxième section. Nous pouvons et nous devons être dans la joie lorsque nous subissons de mauvais traitements pour l'Évangile. Quoique nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas toujours persécutés pour notre foi, il faut le dire. Sinon, ça serait quand même lourd. On le ferait, mais par la grâce de Dieu. Certaines fois, comme le dit le Seigneur, quoi qu'on ait souvent persécuté pour notre foi, certains d'entre nous, des fois, pourraient être persécutés à cause de leurs offenses. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus parle d'une situation où quelqu'un vient offrir son sacrifice à Dieu, mais se souvient que son frère a quelque chose contre lui. Avant même de poursuivre son acte d'adoration, Jésus lui demande d'aller d'abord se réconcilier avec son frère. Et il ajoute, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, de peur que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Alors, Jésus lui-même reconnaît qu'il existe des souffrances, des tribulations, si on peut les appeler comme ça, qui ne viennent pas de la fidélité de Dieu, mais de fautes réelles, d'offenses non réglées envers ses frères et sœurs, des torts qui ont été causés aux autres et que nous devons prendre au sérieux. Hein, c'est exactement la même distinction que Pierre fait dans son passage. Il y a une souffrance qui honore Dieu et qui est honorable pour le chrétien. Il y en a une autre qui est honteuse à éviter. Et si nous savons que nous avons péché contre notre frère, hein, ou que même notre frère, dans ce cas-ci, a péché contre nous, d'aller nous confesser, d'aller régler la situation auprès de notre frère, d'aller régler la situation si on a commis une offense. Et une des raisons pour laquelle la souffrance n'est pas adéquate, c'est à cause du péché. Le commentateur Peter Davids, encore une fois, fait une distinction entre les deux types de fautes. Premièrement, la première catégorie, explicitement proscrite par la loi de Dieu dans le Deutéronome, et l'autre catégorie qui est plus large et qui peut inclure beaucoup plus d'autres fautes, d'autres péchés qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le Décalogue, dans la loi de Dieu. Voilà. Alors, c'est pertinent pour nous, pour l'application qu'on peut en faire. Alors, je vais m'expliquer. Il est tout à fait normal, du moins pour les chrétiens de longue date, de ne pas appeler des souffrances pour le Christ les conséquences, par exemple, d'un emprisonnement dû à un crime, comme le fait d'avoir volé ou avoir ôté la vie de quelqu'un, qui sont la première catégorie de crimes qui est mentionnée ici, qui sont explicitement proscrits par la loi de Dieu. Mais d'autres types, ils peuvent être plus subtils. D'autres types de péchés peuvent être plus subtils. Par exemple, quelqu'un qui pourrait, en guillemets, souffrir pour le Christ parce qu'il se dit rejeté de sa famille à cause de sa foi. Mais à chaque fois qu'il veut témoigner de l'Évangile glorieux, hein, qui est l'Évangile glorieux de notre Seigneur, il manque de patience et lève le ton de la voix, parle par-dessus tout le monde, pour tenter de prouver son point en pensant qu'en multipliant les arguments, il sauvera quelqu'un, ne sachant pas, ne reconnaissant pas qu'il tente de remplacer l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui agit, qui convainc les hommes, et il n'a aucune considération pour les autres, il pêche. Il s'imagine qu'il tente de prouver une philosophie, que sa philosophie est supérieure à celle d'une personne dans sa famille, ou que son équipe sportive est meilleure que celle de celui à côté de lui. Et lorsqu'on parle à ses frères chrétiens, ils témoignent quelle grande opposition ils subissent de la part des inconvertis à cause de sa foi. Il récite le verset par cœur, peut-être même ce chrétien-là. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Alors, sans surprise, j'étais cet homme. Hein? J'ai fait cette erreur-là au début de ma vie chrétienne. Et puis, je me souviens d'une situation. J'étais avec un ami et puis je lui annonçais l'Évangile. J'essayais de faire rentrer l'Évangile en lui. Et puis, il était à ça, contextualiser un peu, de m'envoyer son penalty en plein visage. Hein? Alors, il était très, très près de me frapper au visage à cause que j'essayais beaucoup trop et que je lui manquais de respect en lui annonçant l'Évangile. Et ce n'est pas la chose à faire. Et après, je me dis persécuté pour l'Évangile de Dieu, mais c'est parce que moi, je manque de sagesse. Parce que moi, j'ai péché contre mon frère. Et après, je suis capable d'étaler tous les versets bibliques qui me disent « Ah, misérable de moi, qui est méprisé, qui est rejeté pour l'Évangile de Dieu, quand finalement, c'est moi. Hein? » C'est moi qui ai persécuté à cause de mon péché. Et puis, la liste pourrait être longue. J'ai décidé de prendre un exemple dans ma propre vie, mais faites l'exemple que vous voulez dans vos propres têtes. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que le Seigneur nous appelle à souffrir comme chrétiens et pas parce que nous aurions fait toutes sortes de péchés pour lui. Hein? Qu'il soit grand et condamnable pour la société dans laquelle nous vivons, comme le meurtre et le vol, qu'il soit plus discret, mais tout aussi grave et méprisable aux yeux de Dieu. Le Seigneur désire que nous marchions comme lui a marché, que nous soyons saints comme lui est saint. Et nous le sommes à cause du Christ, parce qu'il nous a déclarés justes. Et nous le sommes irréprochables devant lui. Et si nous le sommes devant lui, si nous sommes des enfants de lumière dans un monde ténébreux, agissons ainsi. Qu'il y ait une aussi grande différence entre nous et les gens du dehors qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. Sachant que nous sommes le corps de Christ sur la terre, agissons avec sagesse et bonté envers tous. Et n'ayons point honte de son nom et du témoignage apporté pour lui. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne se fait plus demander « Pourquoi ne viens-tu pas adorer les divinités au temple? » comme c'était le cas de l'époque des contemporains de Pierre. Mais aujourd'hui encore, il peut y avoir une honte, une gêne dans le cœur des chrétiens par rapport au nom de Christ. Et Pierre dit « Ne pas rougir. » Il n'y a pas si longtemps que ça, ici au Québec, les protestants ont vécu quelque chose, on pourrait dire un peu similaire, aux contemporains de Pierre. Avant la Révolution tranquille, le catholicisme était profondément lié à l'identité canadienne, française, aux institutions, à l'éducation, à toute la vie sociale. Le protestantisme, de son côté, était souvent associé au monde anglophone, britannique, impérial, qui est venu, Pour plusieurs Canadiens français, les catholiques Pour plusieurs Canadiens français qui étaient catholiques, devenir protestant pouvait être perçu comme une rupture avec son héritage culturel, avec une opposition. On a souvent entendu les Français qui haïssaient les Anglais et vice-versa. Alors, il y avait vraiment quelque chose de s'identifier au protestantisme qu'on croit être le véritable christianisme. Certains pouvaient même y voir une forme d'alignement avec le monde anglais, qu'ils avaient longtemps été perçus comme une puissance qui était dominante, étrangère à l'identité canadienne, française. Aujourd'hui, notre contexte a changé. Hein? Nous vivons plutôt dans une société qui est largement sécularisée. Et les gens se disent athées, agnostiques, spirituels, sans religion, simplement sont indifférents totalement à la foi chrétienne. Mais dans ce contexte-là, ce n'est plus seulement le protestantisme qui paraît étrange, mais vraiment toute la foi chrétienne façon générale, lorsqu'elle est vécue sérieusement. Certains trouveront étrange que nous croyons encore à la Bible, que nous croyons que la Bible plutôt est la parole de Dieu. D'autres trouveront étrange que nous parlions du péché, de la repentance, du jugement de Dieu, de la croix, de l'enfer, du pardon, la résurrection. Plusieurs comprendront difficilement pourquoi nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, hein, dans nos corps, dans nos mariages, dans notre manière de parler, dans notre manière de, d'administrer tout ce que Dieu nous donne. Mais Pierre nous rappelle à ne pas avoir honte des souffrances, des moqueries qu'on peut subir pour l'Évangile, de nos persécutions à cause de son nom, si nous faisons le bien selon Dieu. Le monde, peu importe ses manifestations culturelles et religieuses, a toujours été ennemi de l'Évangile de la croix, et il le sera toujours. Pierre dit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Le titre chrétien, Peter David rappelle qu'il fut probablement forgé justement par des non-croyants, et pour désigner ceux qui étaient perçus comme attachés à une personne qu'on appelle le Christ, que ce soit par leur confession ouverte ou par leur style de vie. Alors, le nom chrétien avait vraiment une dimension sociale. Il identifiait publiquement pour les gens qui les entouraient ceux qui vivaient d'une manière différente d'eux, étrange à eux. La honte mentionnée par Pierre doit être aussi comprise dans ce contexte-là, dans une société qui était fortement structurée par l'honneur et la honte. Il y a encore des sociétés aujourd'hui qui sont comme ça. Alors, c'est ça. Être identifié comme chrétien pouvait t'amener à être marginalisé. Pour le troisième et dernier point, Pierre, encore une fois, arrive avec un passage un peu difficile, mais qui n'est pas si difficile que ça, mais il peut sembler difficile à la première lecture. Et je le lis. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors, la difficulté dans ce passage-là vient de ces deux sections-là. Le premier, le jugement commence par la maison de Dieu. Ça peut sembler un peu étrange. Et le deuxième point, qui peut nous ébranler, si le juste se sauve avec peine. Mais qu'est-ce que Pierre veut bien dire ici? Est-ce qu'il faut comprendre une punition rétributive des croyants par Dieu? C'est directement pour donner du poids à son argument au verset 15. Une mise en garde pour ceux qui souffraient injustement, que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il se dit de se rappeler que le jugement de Dieu dans l'Ancien Testament et ainsi dans la Nouvelle Alliance en Christ, le jugement commence par sa maison. Il jugeait premièrement son peuple avant de le faire pour le reste des nations. Alors, il prend au sérieux la sainteté de son peuple. Il est loin de banaliser le péché qui est au milieu de son peuple. En Ézéchiel 9, 4 à 6, on peut lire, « L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Psaume 93, verset 5, partie B. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. La dernière chose que Dieu fait, c'est de fermer les yeux sur le péché. Son sanctuaire a été souillé par toutes sortes d'abominations païennes. Dieu purifie sa ville sainte, son temple, son sanctuaire. Il sanctifie l'endroit où il place son nom. Et c'est la même chose pour l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance, pour ceux qui lui obéissent et qu'ils ont sur le front cette marque, la marque de la Nouvelle Alliance, cette marque rouge, hein, par le sang de l'agneau, sans tache, qui a été immolé, qui a été jugé par Dieu à notre place. Nous sommes sans crainte parce que le jugement ne sera pas sur nous. Il ne s'approchera pas de ceux qui ont la marque. Il ne tombera pas sur ceux qui, et je cite le passage d'Ézéchiel, qui gémissent à cause de toutes les abominations, quand ils voient toutes les abominations qui se font. Sur ceux qui ont en horreur le péché, le Seigneur les gardera dans sa main. Psaume 97, 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Alors, c'est tout le sens du dernier passage. C'est dans cette même lignée que Pierre avertit l'Église du Seigneur. Son peuple élu, ceux qui connaissent, sont en sécurité. Toutefois, ils sont dans une communauté. Ils s'assemblent dans une église. Et dans cette église-là, il y a des boucs livrés et parmi le peuple. Et c'est pourquoi le jugement est là et constamment présent. Cette même purification que Dieu a faite au sein d'Israël, le peuple de l'Ancienne Alliance, c'est exactement la purification perpétuelle que le Seigneur fait dans son église locale. Dieu purifie son Église en exposant le péché, en appelant à la repentance les pécheurs et parfois en retirant de la communion du corps de Christ ceux qui persistent obstinément dans le mal. Et le Seigneur nous commande de le faire en Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il est évident que le Seigneur pourrait enlever lui-même les boucs, mais il donne le pouvoir des clés à l'Église, c'est-à-dire la responsabilité de garder la sainteté de sa maison, d'appeler les pécheurs à la repentance. Et lorsque quelqu'un persiste dans le péché sans repentance, de ne plus le considérer publiquement sa profession de foi comme si elle était authentique, hein, de le retirer du milieu de nous. De le regarder comme si c'était quelqu'un qui n'a jamais été transformé par la vérité de l'Évangile. Le jugement de Dieu est tombé sur lui. Il est en attente du jugement s'il n'y a pas de repentance. Il est en attente du jugement éternel de Dieu qui tombera sur tous ceux qui rejettent l'agneau de Dieu. Nous ne savons pas, nous, personnellement, qui sont les boucs, qui sont les faux frères. Ceux qui se disent connaître le Christ et qui professent la foi que nous partageons, mais qui en renient la force, la puissance pour être sauvé, la puissance pour être transformé. C'est seulement le Seigneur qui connaît assurément les siens parfaitement et ceux qui lui appartiennent pas également. Cependant, il nous a donné une manière de reconnaître les faux frères. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le jugement commence par la maison de Dieu. Ça signifie plus que l'exclusion de ceux qui persistent dans l'impénitence, qu'ils ne veulent pas se repentir. Ça signifie aussi pour nous, et là c'est c'est pour nous les véritables croyants, une discipline paternelle pour ceux qui appartiennent réellement au Christ. Dieu corrige ses enfants. Il les reprend. Il expose leurs péchés. Mais il le fait pour les ramener à lui, pour les restaurer, pour les détourner de leur mauvaise voie. L'effet purificateur du jugement de Dieu produit deux effets. Chez les vrais croyants, il produit une repentance, l'humiliation, le retour au Seigneur et la restauration du croyant. Chez ceux qui persistent obstinément dans le mal, il expose leur fausse profession de foi et les retire de son peuple. Il est bien évident que nous voulons que tous se retrouvent dans la catégorie de ceux qui dit comme le Seigneur Jésus, s'il t'écoute, tu as gagné un frère. Mais la réalité, c'est qu'il y a des boucs au milieu des brebis. Et Dieu est celui qui purifie son peuple, et c'est une bonne chose. En conclusion, frères et sœurs, Pierre nous apprend à comprendre adéquatement la souffrance chrétienne. D'abord, il ne faut pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous. Si nous appartenons à Christ, il ne faut pas trouver étrange que le monde trouve notre vie étrange. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre fidélité à Christ peut provoquer l'incompréhension, le rejet et l'hostilité, comme il est mentionné dans le passage. Et c'est loin d'être une anomalie. Notre Maître lui-même a souffert avant d'entrer dans sa gloire. Alors, il y a cette identification-là au Christ. Ensuite, il y a un type de souffrance qui est louable et un autre qui ne l'est pas du tout. Souffrir pour Christ, c'est une chose. Souffrir parce qu'on a péché, c'en est une autre. Si nous souffrons à cause de notre péché, c'est notre orgueil, notre dureté de cœur, eh bien, ce n'est pas de la persécution, c'est une juste rétribution. C'est une souffrance comme lorsqu'Israël se voyait tomber sous le jugement de Dieu par les nations d'alentour qui venaient le détruire et l'amener en captivité et qui avaient été poussées par Dieu. Et quand Pierre dit que le jugement commence par la maison de Dieu, il ne veut pas dire que Dieu condamne ses enfants. Christ a déjà porté notre condamnation sur la croix, mais Dieu prend son Église très au sérieux. Il nous purifie, il nous reprend, il nous corrige, il nous rappelle et ramène, il expose le péché pour nous appeler à nous repentir, à nous restaurer, à nous détourner de nos mauvaises voies. Et si Dieu prend au sérieux la sainteté de sa propre maison, alors imaginez la fin de ceux qui refusent l'Évangile. Si le chemin du juste passe par l'épreuve, cette si grande épreuve, que deviendra celui qui rejette le Christ jusqu'à la fin? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et pour finir, si nous souffrons à cause de notre péché, repentons-nous. Si nous souffrons pour le nom de Christ, ne soyons pas honteux. Remettons notre âme au fidèle Créateur et continuons de faire le bien. Parce que Dieu garde les siens, il purifie son Église, il va conduire ses enfants jusqu'à la gloire. Amen.